écouter, télécharger et partager toutes les émissions du OFF sur www.osmose-radio.fr.
Osmose Radio.
Osmose.
La web radio du OFF.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Osmose dans la couleur des planches. Aujourd'hui, je vous embarque dans Juste la fin du monde, une adaptation de Jean-Luc Lagarce par Jean-Charles Mouveau, au Petit Louvre Templier à 19h35. Honneur aux dames, bonjour Gilles Caplan. Vous êtes comédienne dans ce spectacle et bonjour Philippe Calvario, également comédien dans ce spectacle, dans lequel bonjour. Vous êtes Antoine et Catherine, un couple marié. Louis, un écrivain parisien, revient dans sa famille qu'il n'a pas vue depuis 12 ans car il va mourir. Il retrouve sa mère, sa sœur, son frère et apprend à connaître sa belle-sœur. Son retour réveille vraiment des tensions enfouies et chacun tente de trouver sa place face à ce revenant. Philippe Calvario, vous interprétez le rôle d'Antoine, ouvrier distant et dur face à ce frère absent en quel on a l'impression qu'il ne croit plus. Est-ce que le personnage est résigné?
Antoine?
Oui.
Non, je pense qu'il est... il est dans une vie qui est une sorte de routine, mais au jour d'aujourd'hui... Enfin, actuellement, je me dis qu'il est plutôt heureux dans sa vie et que Louis devient le révélateur de choses enfouies, secrètes de la famille. Il devient comme une sorte de dynamite comme ça qui va arriver. Mais résigné, non, je dirais pas. Sinon, il n'aurait pas le discours de la fin qui est quand même une sorte de bilan sur ce qui se passe émotionnellement chez lui, qui est quand même bien vivant pour le coup.
Gilles Caplan, vous interprétez donc la femme de Philippe Calvario dans le spectacle. Avant tout, vous êtes chanteuse et vous aviez déjà travaillé tous les deux autour des écrivains de la Beat Génération il y a quelques années à Avignon.
En 2014.
Avec Sur la route. Comment est-ce que vous vivez cette nouvelle expérimentation de la scène?
Très bien. la difficulté que j'ai eue au départ, c'était vraiment d'apprendre le texte, qui est très difficile à apprendre avec beaucoup de changements de temps, des redites, des fautes de français écrites volontairement. Donc il y a quand même un petit exercice. J'ai pas tellement l'habitude d'apprendre des textes de théâtre, donc ça a été plus la difficulté là. Après, bon bah voilà. Après, la chance que j'ai, c'est d'être entourée d'excellents comédiens. Et quand on joue avec des très bons comédiens, je pense que soi-même, on peut pas être complètement mauvais parce qu'on est porté vers le haut, quoi. Donc c'est une grande chance.
Alors Philippe Calvario, on a peut-être l'habitude de vous voir dans des rôles un peu plus poétiques et sereins. Pourtant, aujourd'hui, vous entrez dans un autre registre. Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu plus de brutalité au sein de ce rôle?
Très bien.
J'adore ça.
Exactement. Non, mais effectivement, quand il m'a proposé de jouer dans la pièce, j'étais à peu près sûr qu'il allait me proposer Louis.
Qu'il interprète
et
lui-même.
Qu'il joue lui. Et puis, il m'a dit très vite Antoine. Et là, je me suis dit, ah, il y a peut-être alors... il projette sur moi quelque chose que peut-être d'autres ne voient pas encore. Et ça m'a encore plus intéressé, je pense, que s'il m'avait proposé Louis, que j'aurais trouvé plus finalement... j'aurais trouvé l'idée plus banale, on dirait. Mmh. Et puis, voilà, des gens qui nous connaissent, Pierre Note par exemple, qui disait que ça lui semblait étrange au départ, puis après qui est complètement revenu sur cette idée-là.
Surtout à la fin, au moment où vous explosez.
Oui, mais une sorte de brutalité, mais c'est quand même un être très poétique en fait. Et je pense que c'est justement peut-être ça que, si je suis parvenu à faire quelque chose, c'est peut-être ça, c'est-à-dire montrer qu'il n'y a pas du tout qu'une... Lui, il ne se considère pas comme brutal et je pense
non,
qu'il
n'est
pas.
Violent.
Voilà. Il y a un moment où il a un éclat, où il a sans doute envie de tuer son frère, mais parce que quelque chose comme ça explose sur une fraction de seconde. Mais sinon, oui, il lui fait dire des choses quand même qui sont de l'ordre aussi du poème, enfin, d'une langue poétique en fait quand même. Et il y a une vraie faille chez lui.
Gilles Caplan, en tant que sa femme, comment vous gérez le conflit, cette montée de tension?
Je le gère comme un spectateur à la fois extérieur, dedans et dehors, quoi. C'est-à-dire que je suis dans la pièce, je suis une pièce rapportée, je fais pas partie de cette famille. Donc j'échappe quand même à une certaine forme de névrose de la sœur, du frère, des deux frères, de la mère, enfin. Moi j'arrive là-dedans, je me glisse, je regarde ça. Je suis la seule qui arrive à dire à Louis, par exemple, de partir. C'est elle qui le fait partir. C'est pas les autres. Personne ne peut lui dire ça parce qu'il est dans la famille. Et d'ailleurs, Antoine lui dit, tu es chez toi, tu peux y rester autant de fois que tu veux. Tu as le droit, tu as tous les droits. Ça ne me regarde pas. Catherine, elle le connaît pas finalement. Elle voit son mari s'effondrer littéralement sous ses yeux, être blessé. Et elle ose dire ça, quoi. Donc c'est un personnage qui est sympathique, hein, qui n'est pas si en retrait que ça. Parce qu'elle arrive à dire les choses et à...
Elle a une autorité.
Une autorité, disons qu'elle est légitime dans ses sentiments et dans ce qu'elle dit, quoi. Voilà, elle est assez cash, finalement.
Il y a une scénographie très abstraite avec une pyramide de tables. Est-ce que c'était volontaire de faire un espèce de jeu autour de la hiérarchie, mais aussi de créer comme un espèce de grenier qui peut refléter une forme d'abandon, quelque part?
Ça pourrait être ça. Moi, je disais que je trouvais le décor et l'ensemble assez minéral. C'est-à-dire que c'est vrai que le sol comme ça, qui est qui pourrait presque être une roche. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de gravir une montagne quand on va là-haut. Et la table du haut, quand Antoine y est, en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est un trône, en fait. Mmh. C'est une sorte de... Il faut accéder à cet endroit pour souvent pouvoir se permettre de parler. En tout cas, quand Antoine va se mettre à parler, il va falloir qu'il soit perché là-haut, ce que je trouve... intéressant. Plus ça avance, moi je le vois réaliste, le décor. Au début, je voyais encore des tables, je voyais encore des tiroirs. Hier, je me suis moi-même raconté que effectivement les tiroirs étaient placés à l'envers, donc tout était faux dans le décor, puisque évidemment les tables sont renversées, les tiroirs sont à l'endroit. Mais donc en fait, c'est complètement stylisé en fait. Ouais.
Moi, je dirais que c'est le symbole de cette famille qui est tout en bazar, quoi. Toute renversée, toute cabossée, mise un peu n'importe comment, avec des trucs qui s'ouvrent, qui se ferment. Et puis j'adore le sol. Pour moi, c'est une nappe de pétrole brillante,
oui,
dans laquelle on est presque absorbé, quoi.
Mmh.
C'est comme si c'était des sables mouvants où les gens allaient peu à peu couler et s'enfoncer dedans, quoi. Donc c'est très symbolique, quoi. C'est esthétique et symbolique.
Ce qui est intéressant dans cette pièce, c'est que Antoine, à la fin, explose, mais Louis, lui, vient avec un but, celui d'annoncer sa mort prochaine, et repart muré dans le silence.
Absolument, c'est la pièce. Il aura déclenché il aura permis à la parole de se déclencher chez les autres, mais lui n'aura pas dit ce qu'il avait à dire. Mais j'ai l'impression qu'Antoine l'a perçu, parce qu'il lui dit « J'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'étais enfant, et j'espère qu'il ne t'arrivera rien de mal. » Donc il a quand même un pressentiment. Je pense que c'est des choses qui se pressentent. En tout cas, Antoine a cette capacité-là, j'ai l'impression, à pressentir. C'est pour ça qu'il veut pas d'une certaine façon, il l'empêche de parler. Il n'a pas envie de savoir. Il lui dit qu'il a peur, et il a peur. Oui.
En fait, tout le monde l'empêche de parler, quoi. C'est chaque fois les seuls moments où il parle, c'est sur un mode narratif où il est, nous on est en comme une image arrêtée, et raconte ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Il est à la fois dans le futur et à la fois dans le passé, quoi. Et nous on l'empêche de parler. Enfin, même moi, à un moment, ne dites rien, je vous interromps. On veut pas l'entendre. En revanche, il reçoit un tombereau de reproches, quoi, par la mère, par son frère, par sa petite sœur. C'est, il catalyse le reproche et il en devient presque antipathique, parce que au début on a de l'empathie pour lui, on se dit oh là là, il va mourir, puis à la fin on dit mais vas-y, dégage, quoi. C'est très marrant comme ça se retourne au fur et à mesure.
C'est une belle prise de parole à découvrir donc au Petit Louvre Templier à 19h35. Et je rappelle aussi que Philippe Calvario, vous jouez dans Une maison de poupées à 15h10 au Théâtre de Loul, mis en scène par Philippe Person.
Exactement. Ouais. Et les deux spectacles sont plutôt pleins, donc il faut réserver, mais on serait heureux que vous veniez.
Donc dépêchez-vous.
Bien sûr.
Donc je vous souhaite un bon festival.
Merci beaucoup.
Et pour ma part, je vais vous parler d'un spectacle qui s'appelle Cendres, le spectacle sans doute le plus poignant que j'ai vu jusqu'ici. Une création de Solène Denis et du collectif Denisiac à 13h45 au Théâtre de la Manufacture. Un spectacle qui nous ouvre les yeux le temps de la représentation sur un sujet tabou, car il est très dur. Il s'agit de l'infanticide, un thème gênant qui ne peut pas se défaire du jugement et de la condamnation qu'en fait chacun. C'est un acte évidemment monstrueux parce qu'il est commis par celle qui donne la vie et qui décide ici de la reprendre. Et c'est à ces femmes de l'ombre que Solène Denis a souhaité donner la parole. Ces femmes qui sont souvent incapables de mettre des mots sur leurs gestes, des femmes auxquelles on ne laisse même pas le bénéfice de l'écoute et encore moins celui de la compréhension. Pourtant, on comprend ici que comprendre, ce n'est ni accepter ni pardonner. C'est leur permettre de s'exprimer sur leur monstruosité, de permettre de l'atténuer également et de recouvrir une figure un peu plus humaine. C'est ce qui se passe ici sur la scène de cette patinoire de la manufacture avec le choix assez singulier d'un comédien, d'un homme pour interpréter l'histoire de cette mère néonaticide. Un parti pris intéressant qui crée une distance face à la situation parfois insoutenable, mais qui surtout, en cassant la barrière des sexes, nous interroge davantage sur ce geste. Alors sur scène, il y a une toute petite plateforme en hauteur sur laquelle est assis sur un fauteuil près d'une lampe le comédien Erwan Daoufar, qui nous fera vraiment passer par toutes les larmes et tous les sourires pendant une heure. Il est donc elle et nous raconte son intimité, les promesses trahies de son mari, ses efforts pour toujours être là et sourire, sourire quoi qu'il arrive. Parce qu'en fait, elle nous raconte que sourire, ça envoie une information à ton cerveau. Ça lui explique que en fait, bah, tu es heureux. Donc, on se voile la face et on devient heureux. Ce qui est touchant, c'est que cette femme, elle a toujours accepté avec patience, se raccrochant à l'excuse du mariage. On assiste impuissant à la chute d'une vie, au mis au banc d'une existence qui nous désole et même qui nous fait de la peine. L'horreur de l'acte, il naît à travers les mots, parce qu'en fait, elle nous décrit vraiment tout ce qui se passe. Mais elle essaye quand même de surtout contrôler ses pensées, parce qu'elle considère qu'elle n'est pas folle. Elle pense que parfois, on peut avoir un moment suspendu, un moment d'égarement. Et toute la monstruosité, au sens propre, elle est mise en valeur dans la mise en scène, avant même d'apparaître dans le discours. Donc à la fois dans la scénographie, parce qu'en fait, le dessous du fauteuil, il est recouvert de longues aiguilles qui sont plantées, donc des longues aiguilles en fer, qui ressemblent à une espèce de bouche acérée et pointue, comme un trou béant, une espèce de néant. Il y a un jeu également au niveau des lumières. Le comédien allume une lampe de chevet à côté de lui pour des moments où il exprime ses doutes. Donc c'est des moments assez noirs qui contrebalancent avec un éclairage plus général du plateau. Et le clou du spectacle, c'est un effet que je ne vais pas vraiment vous dévoiler, je vous le laisse découvrir, au niveau de la bouche du comédien qui se noircira peu à peu et deviendra dévorante. On ne sort vraiment pas indemne de ce spectacle qui ne suscite pas le dégoût, mais vraiment une réflexion très intéressante. Donc allez voir Cendre à 13h45 à la Manufacture. Je vous souhaite un bon festival.